Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1995. Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot est un essai historique et philosophique consacré aux significations vécues de la philosophie grecque et romaine. Spécialiste de Plotin, du stoïcisme et de la tradition néoplatonicienne, Hadot ne propose pas un simple panorama des doctrines antiques. Il examine la fonction sociale, pédagogique et existentielle de la pratique philosophique, depuis la figure de Socrate jusqu'aux écoles de la période impériale. Sa thèse directrice est que la philosophie antique constituait avant tout une manière de vivre orientée vers la sagesse, et non une accumulation de thèses ou un métier académique. Les discours, les raisonnements et les systèmes y avaient une importance réelle, mais ils servaient une conversion du regard et une formation du caractère. Le livre éclaire ainsi les écoles platoniciennes, aristotéliciennes, épicuriennes, stoïciennes, cyniques et sceptiques à partir de leurs pratiques, de leur finalité et de leur forme de vie. Il interroge enfin la séparation moderne entre savoir philosophique et existence quotidienne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la philosophie comme choix de vie plutôt que comme simple théorie, le geste central de Hadot consiste à déplacer la question. Au lieu de demander seulement quelle doctrine les anciens soutenaient, il demande ce que signifiait devenir philosophe dans leur monde. Philosophes engageaient un choix global de vie, visible dans la manière de juger, de désirer, de parler, de se rapporter aux autres et de faire face aux événements. Les écoles ne transmettaient donc pas uniquement des propositions sur la nature, la connaissance ou le bien. Elles proposaient des orientations existentielles concurrentes, chacune avec sa discipline, sa conception du bonheur et son rapport à la communauté. Cette perspective permet de comprendre pourquoi des écoles très différentes pouvaient toutes se dire philosophiques sans se réduire à des systèmes comparables. Chez les stoïciens, la liberté dépend notamment du discernement entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Chez les épicuriens, la réflexion vise une paix de l'âme fondée sur des désirs examinés et sur une juste compréhension de la nature. Hadot ne nie pas la valeur intellectuelle des doctrines. Il soutient plutôt que leur sens premier se révèle dans la transformation qu'elles cherchent à produire. La cohérence conceptuelle devient alors inséparable de la cohérence pratique. Cette lecture corrige une habitude moderne qui isole les textes de leurs usages et qui traite les philosophes antiques comme de simples précurseurs de problèmes universitaires actuels. Deuxièmement, le rôle formateur des exercices spirituels. Pour rendre concrète cette philosophie vécue, Hadot met au premier plan la notion d'exercice spirituel. Le terme ne désigne pas une pratique religieuse au sens étroit, mais des opérations volontaires de pensée, de mémoire, de lecture, de dialogue et d'attention destinées à modifier durablement le sujet. Il peut s'agir de se préparer aux difficultés, de relire sa journée, de méditer une maxime, de maîtriser une réaction immédiate ou de replacer un événement dans l'ensemble de la nature et du temps. Ces exercices ont une logique précise. Une conviction purement verbale reste fragile lorsqu'elle rencontre la peur, la colère, le désir ou le deuil. La répétition et la mise en acte cherchent donc à faire passer une vérité comprise au niveau des dispositions effectives. Hadot souligne ainsi que les textes antiques remplissent souvent une fonction pédagogique et thérapeutique. Une argumentation peut être formulée pour convaincre, mais aussi pour réveiller une vigilance, soutenir un effort ou aider un disciple à se réorienter. La lecture devient elle-même un exercice lorsqu'elle nourrit la mémoire et la présence à soi. Cette analyse explique pourquoi certaines œuvres anciennes paraissent répétitives ou incomplètes selon des critères modernes. Leur but ne consiste pas toujours à exposer une doctrine exhaustive. Elles interviennent dans une pratique continue de formation vers la sagesse, laquelle demeure un idéal plus qu'un état facilement atteint. Troisièmement, Socrate et Platon définirent le philosophe par le manque de sagesse. Hadot accorde une place décisive à Socrate et à Platon dans la constitution du sens classique de philosophie. Le philosophe ne se confond ni avec le savant qui possède un ensemble de connaissances, ni avec le sage qui aurait atteint une perfection définitive. Il est celui qui aime la sagesse, qui la recherche et qui reconnaît la distance qui le sépare encore de son objet. Cette position intermédiaire donne à la philosophie son mouvement propre. Elle implique l'examen de soi, le dialogue et la mise à l'épreuve des opinions reçues. La figure socratique illustre ce lien entre parole et existence. Son enseignement ne relève pas principalement de la transmission d'un traité, mais d'une manière de questionner qui oblige autrui à considérer sa propre vie. Avec Platon, cette orientation se combine à une réflexion sur la contemplation, l'éducation et la cité. Hadot montre que le discours philosophique ne doit pas être confondu avec la philosophie entière. Un dialogue, une définition ou une démonstration sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas à produire la conversion vers le bien et la vérité. La philosophie suppose une aspiration qui dépasse la possession intellectuelle. cette distinction évite deux contresens opposés, réduire Platon à une doctrine abstraite ou imaginer une sagesse antique dépourvue de rigueur argumentative. Chez Addo, l'exigence rationnelle trouve sa place dans une pédagogie de la transformation personnelle. Quatrièmement, les écoles hellénistiques comme communauté de formation. Après Platon et Aristote, Addo décrit les écoles hellénistiques et romaines comme des cadres de vie où la doctrine, l'enseignement et la conduite se soutiennent mutuellement. Le portique, le jardin, les courants sceptiques ou cyniques ne sont pas seulement des étiquettes doctrinales. Ils organisent des manières de vivre avec des maîtres, des disciples, des pratiques de discussion, des textes de référence et parfois des formes de sociabilité distinctes. Cette dimension communautaire est essentielle à la conversion philosophique, ne se réduit pas à une décision isolée, car elle demande des rappels, des exemples, des exercices et une confrontation régulière avec autrui. Les divergences entre écoles deviennent plus intelligibles lorsqu'elles sont rapportées à leur finalité. Le stoïcien cherche une liberté intérieure accordée à l'ordre du monde. L'épicurien vise la tranquillité par la limitation raisonnée des désirs et par l'amitié. Le sceptique pratique la suspension du jugement afin de se soustraire aux troubles produits par les affirmations dogmatiques. Addo insiste cependant sur un trait commun, chacune de ces traditions entend soigner ou réformer le rapport ordinaire à la vie. Les débats sur la physique, la logique et l'éthique ne sont donc pas séparables. Une certaine représentation de la nature peut rendre possible une certaine manière de supporter le destin, de régler ses désirs ou de vivre parmi les autres. L'école unit ainsi instruction intellectuelle et apprentissage existentiel. En dernier lieu, la rupture universitaire moderne et la persistance du problème pratique, la dernière portée du livre, concerne le statut moderne de la philosophie. Addo ne prétend pas que les institutions contemporaines doivent reproduire sans réserve les écoles anciennes, ni que la recherche savante serait inutile. Son analyse met plutôt en évidence une rupture de la philosophie universitaire, tend à privilégier le commentaire, la spécialisation et la production de discours, alors que les anciens articulaient plus étroitement discours et mode de vie. Cette distance permet de poser une question exigeante. Quel effet une philosophie produit-elle sur la manière de vivre de celui qui la pratique ou qui la reçoit? Pour Addo, cette question ne transforme pas la philosophie en recette de bien-être. Les exercices antiques demeurent liés à des cosmologies, à des institutions et à des idéaux historiques qui ne peuvent être transplantés mécaniquement. Leur intérêt actuel réside dans la méthode de lecture qu'ils imposent. Il faut restituer les textes à leur contexte pratique, puis examiner avec prudence ce qui peut encore nourrir une attention au présent, une discipline du jugement ou une perception moins étroite de soi. Le regard depuis le haut, par exemple, ne fournit pas une solution technique aux problèmes modernes. Il invite à relativiser les préoccupations immédiates en les inscrivant dans une échelle plus vaste. Le livre se distingue ainsi des manuels de développement personnel, il ne promet pas une application rapide, mais propose une enquête historique capable de renouveler le sens même de l'activité philosophique. En conclusion, qu'est-ce que la philosophie antique convient aux lecteurs de philosophie ancienne qui souhaitent dépasser le catalogue des doctrines, mais aussi aux étudiants, enseignants et lecteurs non spécialistes intéressés par le rapport entre réflexion et conduite de la vie. La lecture demande de suivre une analyse historique dense, car Addo traverse plusieurs siècles, écoles et usages du mot philosophie. En retour, elle fournit une grille de lecture particulièrement féconde pour aborder Platon, Épictète, Marc Aurèle. Épicure ou Plotin, leurs textes apparaissent moins comme des réserves de thèses isolées que comme des instruments de formation et de conversion du regard. Le bénéfice intellectuel majeur réside dans la distinction entre le discours philosophique et la philosophie elle-même. Elle permet de reconnaître la nécessité des concepts et des arguments, sans oublier la question de leur fonction dans une existence. Le livre peut également enrichir une réflexion contemporaine sur l'éducation, l'attention, les habitudes de jugement et les limites de la spécialisation universitaire. Il se distingue des introductions ordinaires à la pensée antique par son principe organisateur. Plutôt que de juxtaposer des résumés de systèmes, Addo restitue la philosophie comme pratique sociale, exercice personnel et aspiration à la sagesse. Cette perspective, solidement ancrée dans l'histoire des textes et des écoles, évite à la fois la nostalgie simpliste de l'Antiquité et la réduction de ses philosophies à des théories désincarnées. Sa force durable vient de cette alliance entre précision historique et interrogation vivante sur ce que signifie philosopher. Si vous souhaitez soutenir Pierre Addo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.